bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Léna Cadeau.
Bonjour.
Ah, avec Marina Rollman.
Bonjour.
Oui. Albert Algou,
ah oui.
Daniel Morin,
bravo, Daniel.
Tanguy Bastureau sera là tout à l'heure,
bonjour.
Et nos invités donc, Anaïs de Moustier et Pierre Vinet.
Bravo.
Qui a déjà marqué son terrain, Anaïs, c'est ça qui est bien. Bienvenue à ce micro, on est ravis de vous accueillir, d'autant plus ravis que c'est pour un très bon film qui est un film signé par Frédéric Tellier qui sortira mercredi prochain, le 28 novembre. Ça s'appelle Sauver ou Périr.
Un mercredi en 8 alors.
Il y a eu... Non ? Mercredi
ouais, c'est
prochain
ça.
C'est là ?
Oui, c'est là, oui. Si t'as envie de me reprendre systématiquement, même quand il n'y a rien à dire, fais-le, n'hésite pas.
C'est juste, j'ai trop
l'habitude. Ça va se voir que tu m'énerves, tu sais, un jour à l'antenne. Sauver ou périr, ce sont trois années avec trois périodes, trois étapes. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais savoir si tout le monde autour de cette table connaît bien la vie et l'œuvre d'Anaïs de Moustier et de Pierre Ninet. Ceci est une interrogation. Ne répondez pas Anaïs, ne répondez pas Pierre, à part confirmer ou infirmer ce que vont dire nos camarades. Comment réagissait Anaïs de Moustier quand un autre élève se faisait gronder par la maîtresse ?
Elle prenait sa défense ?
À l'école, non.
Elle vomissait ?
Non.
Elle rajoutait.
Elle pleurait ?
Non, mais je vais prendre le triste, ouais.
C'est correct. Correct.
Correct.
Correct.
Je t'ai détesté en un mot. Correct.
Correct.
Non, c'est ça, vous.
C'est vrai,
vous,
gros problème d'empathie excessive. Ouais. Non, mais c'est vrai que mes parents avaient été convoqués parce que, par la maîtresse qui disait, mais est-ce que vous la grondez? Est-ce que vous criez à la maison?
Et
mes
est-ce
parents
disaient,
non, pas vraiment.
Sous-entendu, est-ce que vous la battez?
Pas souvent, pas trop. Et elle a dit, c'est embêtant, faudrait le faire un peu plus parce qu'en fait, dès que je hausse un peu le ton sur un autre enfant, elle s'effondre. Enfin, c'était vraiment trop.
C'est incroyable, une maîtresse qui dit il faudrait frapper votre enfant un peu plus souvent.
Un minimum.
L'acclimater.
Enfin.
Est-ce que vous savez quel super héros Pierre Ninet a failli incarner?
Spider-Man.
Oui. Ah, t'as bossé, toi.
Ça vous irait bien.
Non, mais c'est
physique. Bah oui, c'était... Ouais.
Mais c'est ouais. Alors ouais. C'est semi-vrai quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on m'a proposé j'ai des agents aux États-Unis qui m'ont proposé de passer des essais pour Spider-Man. Je n'aurais jamais été pris, soyons réalistes.
Pourquoi,
deux
pourquoi
minutes. Bah non, mais ils vont pas prendre quelqu'un.
Pourquoi
ils, bah ils prendraient pourquoi un Américain.
Pourquoi
si tu passes des essais, c'est que.
Oui, non, mais je pense vraiment que c'était une bouteille à la mer de passer ces essais. Et puis après, j'ai compris que c'était t'étais bloqué 6 ans par des studios. Tu devais faire Avengers 8, 9, 10, 12.
Ah machin, oui, c'est signé à vie avec Marvel.
Ça ne m'amusait plus, alors que je suis un fan absolu de Spider-Man depuis les films de Sam Raimi avec Tobey Maguire et puis depuis les comics évidemment. Mais
et
voilà.
Évidemment, jouer un super-héros, c'est le rôle ultime pour un comédien. C'est d'un coup,
non, pas, est... du tout.
Ah, pas du tout.
Vraiment pas pour moi. Mais Spider-Man, par contre, ça a vraiment un goût d'enfance. Moi, mon père, il m'a donné ses comics. Voilà, c'est Spider-Man à lui qu'il lisait quand il était
d'origine.
Petit. D'origine. Ouais, d'origine.
Génial.
Donc j'ai vraiment. Il y a un truc de famille. Et puis, je sais pas, j'adore ce super-héros.
À l'accouchement de son enfant à la clinique, au bout du couloir, on entendait Anaïs de Moustier. Mais que faisait-elle?
Elle chantait.
Exactement. Elle chantait pas. Je sais pas ce qu'elle chantait.
Si,
mais
c'est ça l'international.
Vous chantiez?
Je chantais, oui. Mais pas pendant.
Ben si.
Si.
Pendant le travail, wow, entre guillemets.
Tout à fait. J'aime vraiment pas du tout parler de ça à la radio, hein, je vous le dis. Mais effectivement, j'ai fait des sons.
Vous en avez parlé au monde. C'est plus
ah
chic
bon, c'est vrai,
qu'à France
Inter,
évidemment.
J'ai pas du tout fait ça, c'est fou. Quelle erreur. Oui, j'ai produit des sons très, 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 très forts.
Vous pratiquez le chant lyrique en plus.
Je pratiquais le chant lyrique et je sais pas pourquoi ça m'est venu. Et c'était incroyable parce que la douleur a disparu.
Mais alors, pardon.
Et en fait, il existe une méthode qui s'appelle le chant prénatal. Il y a des femmes qui pratiquent ça avant, pendant qu'elles sont enceintes, pour accoucher sans douleur en fait. Et donc j'ai accouché sans péridurale en 3 heures, ça allait ultra vite.
Incroyable.
Parce alors que ça, c'est les quoi sons, c'est, en fait, il y a une hormone
c'est
qui
de pousser, c'est de déjà un, de, sé- non, de sécréter
c'est
une hormone.
C'est génial d'en parler avec vous.
C'est devenu très intime ce quiz. Une seconde, on a basculé, c'est-à-dire que moi, Spider-Man à côté, déjà je pensais putain, je parle de mon père et tout. Waouh, là je me suis vraiment fait doubler total.
Et attendez, parce qu'elle va être invitée à Taratata pour le chant prénatal.
Nous allons. Et j'allais. Et
elle sort un album.
Et j'allais parler du diaphragme. Parce que.
Ok.
La colonne d'air. Mais non, mais c'est ça.
Je ne sais pas, Nagui. Je n'ai pas analysé précisément.
Si,
je crois
l'avez
que c'est une affaire d'hormones sécrétées par le son qui fait du bien.
D'accord, ça n'a rien à voir avec la colonne d'air, ça n'a rien à voir avec le fait de pousser. Non, mais c'est vrai.
Moi, je pense surtout que c'est l'enfant qui trouve ça insupportable et qui veut sortir plus vite.
Aussi.
C'est ça.
Et vous chantiez quoi?
Ah, des sons, quoi, des sons, ah, de, des sons oh, comme si on était dans la jungle, enfin, un truc vraiment très animal.
Quand Pierre Ninet
va... Non, mais continue à parler de ça, j'ai pas
oui, c'est vrai. Ouais.
Quand Pierre Ninet va faire ses courses...
Il ne paye pas.
Il chante aussi.
Que, non, que vérifie-t-il, systématiquement.
L'addition.
S'il a des sous avant de partir.
Non.
S'il a rien dans ses poches.
D'où viennent les produits, c'est un homme éthique.
Exactement, la provenance.
Comme tout le
pourquoi
monde
ça vous fait rire, Pierre ?
Non, non, pas du tout. Elle a dit c'est un homme éthique. Bah oui. J'ai bien aimé ce voilà. Jingle. J'aimerais qu'on le remette à chaque fois que je viens, à chaque fois que je prends la parole.
C'est un super héros un peu moyen.
Oui, homme éthique.
Éthique man. C'est bon,
le plus grand de tous les héros. Un héros qu'on peut tous être. Voilà.
Ouais, qu'il faudrait. C'est-à-dire, vous regardez d'abord quoi ? Si c'est fabriqué en France, non, mais, si c'est bio, si c'est OGM.
Globalement, moi j'essaie de manger. Alors, je dis même pas bio parce que maintenant il y a des gens, ah le bio machin. Non, je mange sans pesticides. Voilà. Moi je préfère les aliments sans pesticides personnellement. Donc, j'essaie de choisir ça. Bah, le plus possible.
Nous tous,
mais moi, je cherche les pesticides.
Justement. Voilà, ouais, j'ai
bien le goût. J'aime bien le goût.
Un maximum d'huile de palme.
Non, ouais. Mais ça peut paraître évident, mais de le formuler comme ça, parfois, pour les gens, c'est un plus un déclic, parfois, que le bio qui. Voilà. Bon, je regarde. Non, j'encourage aussi un peu les gens, s'ils peuvent, à demander dans les restaurants qu'est-ce qu'ils mangent, comment ça a été fabriqué, produit, comment ça a été abattu, si c'est de la viande, élevé, si ça a été élevé ou si c'est sauvage, c'est du poisson.
Une hygiène de vie, une hygiène alimentaire particulière ?
Non, à part ça,
vous
j'essaie...
Vous mangez de tout ?
Oui,
mais vous voulez
tout,
juste
ouais.
Savoir quoi ?
Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Juste savoir quoi, comment ça a été fait, et en fonction, voilà, décider, et puis c'est juste savoir quoi.
À 15 ans, Anaïs de Moustier monte les marches du Festival de Cannes pour Le Temps des Loups. Elle est logée au Majestic. Pourquoi trouve-t-elle sa chambre trop petite ?
C'est un placard.
Non.
Parce qu'il est venu avec quelqu'un. Parce qu'il est venu
avec
sa maman.
Parents.
Parce qu'il est venu
avec les parents.
Non, bah oui, mais pardon, tu complètes les réponses de Marina.
Ouais.
C'est donc Marina.
L'art de la gruge.
C'était même pas avec une ou deux personnes, c'est carrément avec votre famille.
Tout le monde, ouais. Tout le monde est venu. C'était génial. Il y avait même un copain de mon frère. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi.
Mais même moi, je suis venu. Je sais pas si vous vous souvenez. J'étais là, Anaïs.
Non, c'est très joyeux. Très joyeux. Je trouvais même pas la chambre trop petite d'ailleurs. Je trouvais ça trop super. Puis on a besoin surtout du petit déjeuner là, sur une table roulante.
Vous avez le droit de rentrer dans une chambre à 10.
Oui, ça s'était bien passé.
D'accord, ok, très bien. Un bon souvenir de camping au Majestic,
ouais,
en fait. Très
génial.
Bien. Pierre Ninet, d'ailleurs, dans le film aussi, joue au football. Comment le surnommait-on quand il était petit ?
Pelé.
Non.
Tendu.
Amigal.
Non, c'est un nom de joueur.
C'est un surnom qu'on donne de temps en temps à des gardiens de but.
La passoire.
Exactement.
Ah mince.
Bingo.
Bon, Léla, tu partais avec un handicap là-dessus. J'en reconnais.
La passoire.
Ouais.
Vous avez l'air de bien jouer dans le film. C'est un trucage.
Ah non, pas du tout. C'est le seul effet spéciaux du film. On a tout mis sur la partie de foot. Non, j'étais nul. Bon, en foot, j'étais nul. Moi, c'est le basket, mon sport. Mais j'ai vraiment insisté longuement sur le foot quand même. Et gardien de but, c'était vraiment pas mon truc. Mais j'avais mes gants et tout. J'étais persuadé d'être bon. Et voilà. Jusqu'au jour où un gars m'a dit, la passoire. Et ils ont tous rigolé. Je veux me désinscrire du club.
J'avais mes gants.
Anaïs de Moustier jouait donc avec Isabelle Huppert, jouait sa fille dans Le Temps des Loups.
Oui.
C'est ça. Outre le talent de l'actrice Isabelle Huppert, elle a retenu quelque chose de cette expérience. Dans justement l'hygiène de vie d'Isabelle Huppert. Dans le mode de vie.
L'alimentation ?
Non.
L'haleine ?
Non, bah, je t'en prie.
La préparation, l'hygiène de vie, le sport,
non. Le contour du sommeil, de la manière dont on répète, du sommeil.
Exactement.
J'ai un don aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe alors que je n'ai pas fait de recherche.
Vous avez dit apprendre que Isabelle Huppert se couchait tôt le soir et vous dites que c'était une qualité. Elle m'impressionne par son professionnalisme, sa rigueur. Elle se couche très tôt.
Ben écoutez, j'ai oublié, je ne me souviens pas qu'elle se couchait tôt. Je pensais que vous alliez parler de sa concentration parce que je me souviens que j'étais impressionnée par sa manière de se concentrer, d'être complètement dans une sorte de bulle sur le plateau. Ça, je me rappelle.
Ouais, c'est le fiancé.
Et après, le sommeil, ça, j'ai oublié.
Mais c'est une concentration qui peut donner un sentiment de mépris pour les autres, c'est-à-dire repliée sur elle-même et ne parlant à personne.
Non, elle n'est pas repliée, mais elle est dans une sorte de bulle. Et puis après, quand ça tourne, elle plonge dans la fiction et on plonge avec elle. C'est génial.
Sublime
comédienne. Moi, je m'accrochais vraiment à elle tout le temps pour jouer. Quoi.
Sublime comédienne.
Ouais, sublime.
Sublime.
Ouais, pas dans tout. Hein.
Si, elle est sublime. Elle est sublime et on l'embrasse. Et je l'aime. Anaïs de Moustier, Pierre Ninet, vous êtes donc à l'affiche mercredi prochain de Sauver ou Périr. Un film sur 3 ans, même construit d'ailleurs en 3 étapes. Il y a vraiment cette trilogie. On pourrait dire qu'il y a le rêve, le cauchemar et la reconstruction pour aller un tout petit peu vite. Mais ce n'est pas contrairement à ce qu'on pourrait croire avec le titre Sauver ou Périr. Ce n'est pas un film sur les les pompiers. C'est plutôt une histoire d'amour entre vous deux qui vit des épreuves que on pourrait d'ailleurs tous vivre, même si on les souhaite à personne. Mais d'ailleurs, c'est ce que vous dites à un moment donné dans un discours dans la cour de la caserne. On peut être tous amenés à vivre un jour un bouleversement dans une vie, un accident, une maladie, un problème, un décès, un deuil, une espèce de fracture par rapport à cette vie qui est au début un long fleuve tranquille. Exactement. Vous êtes amoureux et tout va bien, c'est ça?
Oui, au départ, il y a plein de rêves, plein de projets pour ce jeune couple. Lui est pompier, elle est un peu la femme d'un héros. Donc effectivement, on est avec eux très légers et on les sent très forts. Et puis
elle est enceinte.
Elle est enceinte, elle attend des jumeaux et puis arrive cet accident et le film devient un peu plus universel à ce moment-là puisque effectivement il raconte comment un couple va se reconstruire et comment le lien entre eux va les aider à
Et d'ailleurs, le sauver ou périr, qui est la devise des pompiers, devient un peu votre devise, celle de votre personnage, Pierre Niney. Il doit se sauver ou se laisser partir.
Ouais, complètement. Se sauver, réapprendre à s'aimer lui-même, réapprendre pour pouvoir aimer encore les autres. Et comme vous disiez, c'est vraiment un film universel sur comment on fait tous quand on a une épreuve dans la vie, petite ou grande, et il y a pas vraiment de gradation dans la souffrance. Quand on souffre finalement, et comment on peut surmonter un accident, une épreuve, en trouvant la lumière, en trouvant l'espoir, en essayant de se réinventer. Là, ce couple-là, ce jeune couple voit tout basculer en une seconde et doit tout, absolument tout redéfinir, réinventer, et voilà.
Et sauf que les bouleversements qui peuvent apparaître dans notre vie ne laissent pas forcément autant de séquelles, parce que c'est ça, c'est-à-dire que l'événement de l'accident, on peut se dire que le temps d'après, c'est la reconstruction, mais vous, votre personnage, il doit affronter plus de problématiques que la moyenne.
Oui, il y a une grande question sur la quête d'identité, notamment, puisque là, le visage du personnage de Franck...
C'est un pompier qui rêve donc de sauver des vies, évidemment, qui est dédié à ça. Il est construit pour ça, il en néglige même un tout petit peu, on a le sentiment au début, sa vie de famille, pour son métier. Il vit dans la caserne, même une déclaration d'amour ou une caresse de sa femme, il a encore l'oreille pour savoir ce qui se passe dehors, s'il y a
une intervention
à faire. Et son rêve ultime est d'être responsable d'une intervention feu. Et sur la première intervention feu, pour sauver justement d'autres pompiers, son équipe, il est lui victime de graves brûlures.
Il va être bloqué dans un accident et sa vie bascule à ce moment-là.
Et donc ça va se voir.
Oui, ça va se voir totalement.
Pour revenir à ça, il est brûlé au visage.
La quête d'identité à la fois symbolique et très concrète, puisque son visage va être métamorphosé après cet accident. Il ne faut pas en dire trop, mais il va y avoir aussi un jeu de masque dans le film, de qu'est-ce qu'on donne à voir, qu'est-ce qu'on cache. Et voilà. Et pour lui, qui je suis maintenant? Est-ce que je suis un être humain, un monstre? Il y a aussi toute la thématique de la monstruosité qui est très cinématographique. Nous, on a beaucoup parlé d'Elephant Man avec Frédéric Tellier, le réalisateur. Et il va se poser toutes ces questions.
Existé, et donc c'est pour ça aussi qu'il y a une part de vérité, parce que l'histoire n'est pas vraie, mais toutes les histoires vraies se retrouvent dans ce film.
On a rencontré des gens qui ont eu des histoires très très proches, très similaires, des grands accidentés de la vie, pas forcément des grands brûlés, mais aussi des grands brûlés, et c'était, on s'attendait à quelque chose de très grave et de très solennel en rencontrant ces gens, en étant dans des services, dans des hôpitaux, et en fait, ce qui nous a vraiment surpris, moi ce qui m'a marqué, c'est à quel point beaucoup d'entre eux ont réussi à transcender leur accident. Et c'était quelque chose de très lumineux, voire joyeux, de les rencontrer, d'échanger avec eux. Alors tu sens que leur rapport au temps, leur rapport aux autres, leur rapport aux choses, tout a changé, tout a été redéfini. Mais parfois, il y a une espèce de conscience de l'essentiel dans la vie, comme ça, sur des sujets tellement importants. Et du coup,
on en revient aux fondamentaux, forcément, quand on voit des épreuves comme ça, oui.
Ouais, c'est ça.
C'est le cas dans le film, d'ailleurs. On se pose des vraies questions de qu'est-ce que l'on aime, qui l'on aime, comment et pourquoi on l'aime.
Exactement, exactement. Donc c'est ce chemin-là qui fait.
Une sagesse obligatoire, en fait, aussi. Une sagesse nécessaire, en fait, sinon.
Vitale.
Sinon, on disparaît. C'est ce que disent aussi les. On a rencontré des gens à l'hôpital Saint-Louis au service des grands brûlés. Et je me souviens que la femme qui m'a accueillie me disait, la soignante, elle me disait qu'en fait, au départ, c'était vraiment une question de vie ou de mort quand ils arrivent. Et qu'en fait, dans ce service-là, elle dit la seule chose, c'est de tenir les gens en vie. Et ça dépend énormément, en fait, de la volonté. Et ça, moi, ça m'a beaucoup surprise. En fait, je pensais que c'était uniquement physique, mais elle m'a expliqué que Mental, il fallait le mental, hein. il fallait le désir de rester.
Mais pardon, c'est le même cas aussi pour des cancers où des personnes, s'ils décident de ne pas se battre contre le cancer, se laissent emporter par la maladie et d'autres par la volonté, la force de caractère d'accepter la chimiothérapie ou d'accepter les soins et de vouloir s'accrocher. Peuvent s'en sortir. La volonté est quelque chose d'essentiel. C'est... Et donc l'entourage et la famille et le regard des autres aussi.
C'est ce que dit Sami Bouajila qui joue un médecin. Il y a des scènes que je trouve magnifiques entre Anaïs et lui où justement il échange là-dessus sur le pouvoir de la volonté qu'on a tous en nous. Et le film est aussi un hymne à ça, un hymne à la volonté, un hymne à la vie, un hymne à la résilience en règle générale. Comment on a tous en nous la capacité finalement de se réinventer si on trouve la force dans les autres, dans l'amour, dans le couple. Et dans plein d'autres choses.
C'est ce que nous allons évoquer tout à l'heure, puisque nous avons demandé à une psy de venir témoigner à ce micro à propos, c'est Sabrina Bellemcasser, qui est psychologue clinicienne au centre de traitement des grands brûlés de l'hôpital Saint-Louis, justement, là où vous avez travaillé, préparé vos personnages. Vous avez beaucoup travaillé, Anaïs de Moustier, pour ce rôle, parce que là, vous parlez de visite à l'hôpital.
Comme pour les autres films, avec effectivement ces deux visites en plus, c'est-à-dire la visite de la caserne Rousseau, là où on a tourné le film. Là, c'était très amusant parce que Pierre s'entraînait à la caserne et le réalisateur du film, Frédéric Tellier, m'avait dit de passer à la caserne. Il m'a dit, Pierre, il sera, tu verras, il va te montrer. Et effectivement, Pierre était plus pompier que tous les pompiers en train de s'entraîner avec ses copains pompiers. Il m'a tout montré, il m'a fait visiter, c'était super. Et après, j'ai visité cet hôpital. C'est les deux endroits que j'ai dû aller voir pour avoir des informations.
Et quant à vous, Pierre Ninet, la préparation, vous avez carrément vécu avec des pompiers pour faire les exercices de cordes, de planches.
Vous êtes étoffé.
Ça s'appelle gaulé.
Vous êtes étoffé, parce que ça veut pas dire qu'il était pas avant, mais en tout cas.
Étoffé, tu peux l'être avec de la graisse de canard. Là, on sent que c'est du muscle.
Ah oui, non, mais bon.
On sent que c'est du muscle.
Sauver ou périr.
Tu vois, regarde,
petit gros.
Daniel Morin est étoffé, tu vois. C'est la différence. Voilà, il est étoffé. Alors que Pierre Ninet.
Non, il est nappé. Il est nappé, Daniel.
Pierre Ninet est dessiné, tu vois. C'est juste ça la différence.
Mais dessiné en quoi?
Écoutez, trouvez le mot. Moi, je vais partir 5 minutes. Vous trouvez le mot qui vous va. Je vais prendre un café. Non, oui, c'était le défi du film depuis le début, c'était de faire les choses de la façon la plus authentique possible. Frédéric et moi, on voulait se lancer corps et âme dans ce film-là, à 200%,
le réalisateur.
Donc il m'a dit, il faut tout que tu fasses réellement, et moi j'étais à 200%, j'ai dit mais carrément. Donc j'ai passé 4 mois avec eux en caserne, en intervention, en centre de formation. Ils m'ont enfermé un jour, c'est-à-dire je ne l'avais pas du tout vu venir, j'étais à Villeneuve-Saint-Georges, qui est le centre de formation des sapeurs-pompiers de Paris. Et il y avait des énormes caissons comme ça, ou comme des espèces de containers énormes. Et ils m'ont enfermé là-dedans avec une lance, avec des flammes, franchement, de je sais pas, 8 mètres, en ressenti 60 mètres. Et il faisait 600 degrés dans le truc. Et c'était une expérience de vie complètement folle. Ils m'ont mis là-dedans avec juste un autre pompier qui m'aidait. Et je devais éteindre des espèces de centaines de cajots en feu.
Vite ta vie dans un four à pizza, quoi.
Exactement.
C'était fascinant. Ça doit être un rêve pour plein de pompiers.
Ah ouais, c'était génial. C'était fascinant.
Un rêve de gamin de jouer aux pompiers, mais après quand t'es près des flammes et que tu sens la température,
Là tu comprends que c'est vraiment des techniciens, quoi. Quand on dit soldat du feu, il y a une image un peu de, ils arrivent, ils éteignent le feu. En fait, c'est des techniciens, ils connaissent tellement bien chaque gaz, chaque réaction du feu. Si le feu il fait un tout petit peu ça, ils savent que ça veut dire qu'il y a une entrée d'air, hein. C'est impressionnant, très impressionnant.
Et pourtant, malheureusement, certains sont victimes de leur métier aussi, il faut le rappeler. Et le sacrifice des vies des pompiers morts au feu et revient d'une manière récurrente dans le film, est extrêmement émouvante aussi dans le regard que les uns ont vis-à-vis des autres, de ceux qui sont capables, ceux qui sont pas capables, ceux qui sont blessés, ceux qui reviennent, ceux qui croient, ceux qui abandonnent. Il y a un truc humain. Tout à l'heure, vous disiez, il faut pas trop en dire. Pardon, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'on peut tout raconter de ce film parce que aucun mot ne peut remplacer ce que l'on vit en le voyant et la leçon que l'on prend. Voilà, les images sont extrêmement fortes, les émotions, les non-dits sont extrêmement forts également.
Il y a le bal des pompiers.
Et on en ressort.
Et ça, faut en parler quand même, parce que c'est un événement, moi c'est l'événement annuel que j'attends, toujours avec impatience, le 13 et le 14 juillet. Alors, il y a une caserne qui est montrée, moi je préfère le point éphémère, qu'est Valmy, je donne les adresses. À Jaurès, ils sont super les pompiers, je connais tous leurs prénoms. En ce moment, ils vendent des calendriers d'ailleurs, si vous les voyez passer dans la rue, il faut leur donner un petit peu de sous quand même, parce qu'ils sont
hyper sympas. Sur une des photos, vous trouverez Leïla, qui est toujours à la caserne, qui est derrière sur une des photos.
J'ai une passion pour les pompiers.
Et je voulais saluer la réalisation excellente de Frédéric Tellier, parce que c'est, il est aussi bon dans l'action du combat du feu que dans les moments de sentiments, les moments d'amour, les moments de doute, de désespoir aussi. Et puis les comédiens. Alors les comédiens, alors vous deux, évidemment, vous êtes excellents, mais alors le casting.
Ils sont encore mieux les autres.
Chloé, mais ce qui est dingue. Non mais pardon, ce qui est pas le cas dans tous les films. Il faut dire la vérité. On a toujours sentiment que je sais pas le passant qui passe, ils l'ont pris vite fait. Il y a un regard caméra qui peut arriver dans certains films. Là, le moindre rôle, le moindre personnage, quelle que soit sa durée de présence, est juste. Il est juste. Je pense aussi à l'infirmière, à Chloé Stéphanie, ouais, qui joue magistralement bien. Vincent Rottier, Samy Bouajila, je l'ai dit. J'ai malheureusement pas toute la liste, mais on va me la donner parce que je voudrais citer celle qui joue aussi votre maman, qui est bouleversante dans le film. Il y a cette justesse là, et je me dis
Catherine Deneuve, ça se retient.
Et je me dis si c'est si juste, c'est que c'est le réalisateur qui est bon. Si tous les comédiens sont
bien sûr, c'est un énorme travailleur. Moi, quand j'ai reçu ce scénario, j'étais complètement bouleversé par l'histoire, mais je ne connaissais pas du tout Frédéric Tellier. Je suis allé le rencontrer et j'ai compris en deux secondes que c'était un bosseur énorme. Je suis arrivé dans les bureaux de préparation, il y avait des maquettes énormes de l'entrepôt où il y a un grand incendie à un moment, et puis je me disais, c'est un film très intime, un film très personnel. Moi, c'est un film que j'ai ressenti vraiment comme ça, peut-être un des films les plus intimes que j'ai fait, ce qui est paradoxal parce que je suis masqué presque la moitié du film, mais en fait, je me suis senti une liberté.
Bandé,
avec des bandes. Et, tout.
Spider-Man,
et en fait, j'arrive dans les bureaux de prépa et je vois que chaque séquence, il veut la faire à 200% et que notamment une séquence d'action dans le feu, il veut faire un truc d'action hyper sensationnel avec vraiment des moyens. Donc il y avait des pompiers qui nous conseillaient surtout. Et il a tout travaillé comme ça, comme un dingue. Et trois ans de documentation pour écrire le film.
Super voilà, bien réalisé, y compris les scènes où vous parlez tous les deux, les scènes où le couple vacille, d'autres où le couple se retrouve. Voilà, le moindre regard, le moindre clignement des yeux est bien capté. Et ça tombe jamais dans une espèce de complaisance gnangnan, toi. C'est réussi. Bien, c'est un très 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 bon film. Et puis il y a une, je sais pas, faut le dire. Enfin moi j'ai il y a eu des scènes où j'ai pleuré en voyant le film, mais on sort de là avec une espèce de carpe diem. C'est ça qui est dingue.
Ouais,
on sort plus fort.
Oui, c'est plutôt un film très lumineux qui donne de l'élan. Alors que quand on en parle là, on pourrait avoir l'impression que c'est uniquement tragique, alors qu'en fait pas du tout.
Pour l'instant, la promo était bien ratée, hein, mais là, elle vient de reprendre un tour.
Elle vient de prendre un bon virage.
Voilà, là, c'est bon. Là, on est remis droit. Là, on y va.
Jean-Jacques Lang, vous avez aimé ce film, c'est un succès.
Nagui, mon ami, rien que ce titre, la devise « Sauver ou périr » évoque un choix ultime, une alternative poignante, un dilemme cornélien entre une issue héroïque et une fin tragique. Voilà qui ne manquera pas d'attirer, d'appâter, captivé, fasciné, tenté, surexcité le public, à commencer bien sûr par celui de France Inter, pardonnez-moi ce jeu de mots un peu facile, qui brûle de découvrir cette histoire. Ceci dit, Nagui Loulet, en vous écoutant vous enflammer, décidément, j'enfile la métaphore, comme vous venez de le faire pour Sauver ou périr, je me suis dit, ce n'est pas animateur qu'il aurait dû être, ce Nagui, mais bonimenteur, capable de vendre des boutons de manchette à un manchot, des côtes de porc à un imam vegan, des extincteurs à un pyromane, du diesel à 5 euros le litre à un gilet jaune. Car, non d'une colonne de Buren, comme dirait mon cousin Jacques, tout à l'heure, dans le bureau de la bande originale, alors que pour redonner un coup de peps à mon visage carbonisé aux UV, je passais discrètement avec mon petit pinceau du blush rajeunissant, je vous ai vu, Nagui, incendié au sens propre, comme au sens figuré, ce pauvre GNB, notre rédac-chef, puisque tout en l'insultant, vous tentiez de mettre le feu à son pull bouloché et à sa barbe hirsute, avec les allumettes dont il s'était pourtant servi récemment pour allumer servilement votre gâteau d'anniversaire. Et vous avez crié, encore un film sur les pompiers, ras-le-bol des films sur les pompiers. Mais pourquoi, ô mon maître ? Mais avec Jean-Jacques Hano, on a entre autres évoqué La guerre du feu. Mais non, La guerre du feu, ce n'est pas un film de pompiers, c'est une histoire d'amour. Tais-toi et passe-moi mes fiches sur les invités. Voilà, cher Pierre Linet, cher Anaïs de Moussier, comment se prépare. Je bafouille, mon dentier se décroche. La bande originale. Mais croyez bien, en dépit de mon bafouillage... Que je n'en suis pas fier. Pour ma part, tout comme mon cousin Jack, je suis un admirateur inconditionnel, tout feu tout flamme, des pompiers de Paris. Et je peux vous dire que bientôt, lorsqu'ils viendront toquer à la porte de notre modeste loft, place des Vosges, pour me proposer leur calendrier, évoqué tout à l'heure par Leila, pour lesquels ils posent beauté, casqué, surentraîné, les muscles bandés, dessinés, gaulés, comme
triste,
vous disiez tout à l'heure,
triste,
bodybuildé, la grande lance à la main, mon cousin, fermement empoigné, qu'ils sachent que je les accueillerai avec chaleur. Bonne émission.
Merci Albert.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Children brought ripples burning and the girls are getting sick off huffing glue up in the bathroom while your boyfriends pick up chicks and darling.
C'est votre chanson celle-là dans le film?
Oui, c'est leur chanson, quand ils rentrent d'une nuit et d'un service et d'intervention difficile, ils se mettent ça à un moment et puis ils dansent ensemble et on comprend que c'est un peu leur truc.
On comprend aussi que lorsqu'arrive un drame dans l'un des deux du couple, c'est la famille, c'est pas que le couple, c'est la famille entière qui peut exploser.
Anaïs. Ah oui, là, clairement, il y a un vrai dommage collatéral pour toute la famille. C'est ça qui, moi, m'intéressait dans la place de mon personnage. Elle se retrouve vraiment dans un endroit très... compliqué. Et comme on le disait tout à l'heure, en fait, quand un médecin vous dit c'est très important, il faut que l'entourage soit là, il faut que vous soyez présent, il faut que vous l'encouragiez et tout, c'est à la fois
c'est un poids énorme,
indicible, en fait. Ouais. Et mon personnage se retrouve dans une espèce de prison et en fait à un moment donné elle a une épreuve de vérité, elle dit que peut-être elle-même elle va pas pouvoir continuer. Et cet endroit de contradiction, ça m'intéressait, c'est complexe.
Et toute la rééducation aussi, tout le travail au moment où vous êtes grand brûlé, le visage totalement masqué, à ne pas pouvoir bouger pratiquement, comment jouer un rôle et comment faire passer autant d'émotions juste, c'est là où vous êtes extrêmement fort, oui. Pierre, juste avec le regard sans bouger, c'est-à-dire vous êtes cloué sur le lit, vous ne pouvez rien faire, et les yeux et quelques râles comme ça qui viennent du fond de votre gorge nous donne la chair de poule. Ça, c'est après avoir posé des questions, avoir enquêté aussi, demander comment ça se passe.
Ouais, il y a beaucoup d'observations. De toute façon, je savais pas trop sur quoi d'autre me baser. Je savais que c'était un des grands défis du film, d'être masqué, d'être métamorphosé. Donc j'ai pris du poids pour la première partie, du muscle pour pouvoir suivre les pompiers, tout simplement. Et puis ensuite, pour la deuxième partie et le Franck fragilisé, je voulais perdre le plus possible de poids, justement. Donc déjà, m'approcher physiquement et du coup mentalement aussi, parce que la fatigue, le sentiment de fragilité, je mettais les mêmes fringues qu'au début du film et je commençais à flotter dedans, donc j'avais un peu cette sensation là de métamorphose et de perdre tes moyens et de plus avoir du tout les mêmes repères d'un coup dans la vie. Donc le corps, la voix, c'est quelque chose que j'ai observé chez des grands accidentés, des grands brûlés notamment, qui après l'accident avaient un autre rapport à la diction, à la parole, au rythme, au temps, complètement. Et ça m'a passionné, ça m'a bouleversé la voix de certains accidentés comme ça. Donc je me servais de tout ça pour compenser ce que je n'avais plus.
Et aussi, bravo. Pierre, c'est un peu isolé. C'était amusant parce que je me suis rendu compte.
Oui, il paraît qu'il vous parlait plus du tout.
Non, c'est pas vrai. C'était la seule qui venait déjeuner avec moi.
Ouais, non, mais c'est vrai que c'était
tellement les autres ne vous aimaient pas.
Ouais, tellement
c'est moche.
Non, mais je me sentais. Alors j'étais masqué, maquillé, donc il y avait et pourtant je me sentais à poil quoi sur le tournage quoi. Donc il y avait beaucoup de moments où j'avais besoin de m'isoler. Et puis Anaïs le dit souvent et en fait ça a tilté l'autre jour. Tu disais en fait inconsciemment quand on est acteur, on se met dans la zone un peu fictionnelle de notre personnage aussi, sans doute quoi. Et du coup je me suis dit mais ça devait aussi être ça quoi, cette solitude là, cet isolement. Je me poussais peut-être un peu à ça inconsciemment aussi sur le tournage.
Et moi j'étais très en empathie. Enfin j'avais vraiment envie qu'il soit bien et tout. J'étais très attentive à lui. Oui, non.
Oui.
Non mais par ailleurs, c'était vraiment
c'était la phrase horrible. Ouais. À la table régie. Tu joues qui déjà dans le film?
Qui est ta femme? Ah, c'est toi.
Non mais c'était pour moi comme actrice, c'était génial de jouer cette chose inédite, de jouer avec un homme masqué, parce que en fait, c'est je guettais la moindre moindre signe de la part de Pierre, ses yeux, enfin son état.
Et puis c'est pas le beau rôle parce qu'on vous juge. on vous juge. Est-ce que vous êtes celle qui allait l'aider à bout de bras? Est-ce que vous êtes celle qui allait le désaimer, le quitter? Il y a cette question, cette épée de Damoclès, on le dira pas, mais c'est vrai que c'est...
Ouais, le désirer encore, voilà, c'est voilà. La question.
Ouais, je sais pas si on juge quand même, moi je dirais qu'on est quand même...
Il y a deux, trois moments où je vous ai pas trouvé très cool.
Ah oui.
C'est enfin, le personnage.
Ah, c'est le coup du xylophone, ça.
Ah, c'est intéressant.
Ça passe pas. Nous n'en dirons pas plus.
De ne pas aller, à pas aller. Ah, ça,
ah oui, oui.
Ça,
ouais.
Non, et de ne pas le prendre quand il en offre un.
Non, moi, c'est pas ça.
De ne pas se rendre à un certain événement important.
Il y très méchamment.
Oui, oui, oui. Et puis personne ne comprend de quoi il s'agit. C'est ça. Oui, non, il y a. Lui, c'est là.
On est dans une très mauvaise direction de promo, là. On exclut complètement les gens.
Non, on va. Oui, il va tenter de la reconquérir aussi. On ne sait pas du tout si ça va marcher ou pas. Mais lui non plus ne le sait pas. Mais effectivement, il y a l'idée qu'il y a redéfinition totale. Faut accepter que l'amour peut évoluer, peut changer dans ce genre d'événements et de circonstances. Et à un moment, il lui demande, il lui dit est-ce que tu m'aimes comme avant? Voilà. Et elle lui dit non, pas comme avant.
Mmh. Parce qu'ils doivent se rencontrer à nouveau. Et moi, c'est ça ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Mais bon, me laisse pas parler.
J'essayais de dire. On me brille.
Vous avez raison.
Non, mais oui. Je suis en permanence coupée par les gens.
Oui,
mais...
est-ce que je me le disais, moi?
En gros, je voulais dire que. je sais plus ce que j'allais dire.
Non.
Le retrouver.
Comment transformer une vanne en une méchanceté d'un
exactement,
coup.
Exactement, avec
Gata. C'est là de ne rien dire, ça
rend
pire méchant.
Non, mais en plus, c'est vrai, j'ai vraiment perdu le fil. Non, c'est ça, c'est qu'en jouant avec lui et le voyant passer par toutes ces étapes de maquillage, de masque, de bandage, je me rendais compte qu'en fait, ce que vit mon personnage, c'est ça, c'est redécouvrir un nouveau visage, c'est rencontrer à nouveau quelqu'un.
Ouais, c'est plus le même homme.
C'est plus le même homme.
Ouais.
Et puis, ça s'appelle sauver. Merci, Léa. Ouais. Ça s'appelle sauver.
C'est toujours comme ça aussi. Ça mais un truc qu'on sous-estime dans ce film
merci,
aussi,
Léa.
C'est la souffrance du pompier parce qu'on a l'impression qu'une fois que le feu
le film de
qu'il
Frédéric
a été brûlé,
Tellier.
Qu'en fait, après, il n'a plus mal.
Marina Rollman.
Sans cesse. Alors, je vais continuer pour la chronique. Il souffre sans cesse. En fait, c'est une douleur. C'est une douleur, mais.
On fait un duo, Léla.
C'est une douleur insensée.
Il s'accroche à tous les micros.
Mais bien sûr. Enfin, faut batailler ici.
On peut changer ma bonnette.
Salut. Très bien. Alors, une fois n'est pas coutume, les amis, aujourd'hui, je voulais aborder une question un peu grave, qui est l'interrogation suivante. Quel verrou mental a dû sauter pour qu'en tant que société, on crée et on soit d'accord d'utiliser un emoji caca? Voilà. Alors, pour les gens qui ne voient pas ce qu'est un emoji, bah déjà, il serait peut-être temps de mourir, hein, quand même, songez-y. Mais donc, les emojis, c'est ces petits dessins avec lesquels on peut
les
aujourd'hui ponctuer des messages, des conversations sur Internet, etc. Il y en a plein. Ça va d'un bonhomme qui sourit à un plat de spaghettis en passant par un croissant de lune. Et il y en a un, c'est un caca. Et alors pour moi, c'est quand même le signe d'une petite déchéance culturelle. Quand même. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, tu disais vous à tes parents, éternuer en public, c'était pas hyper accepté. Aujourd'hui, on s'envoie des petits dessins de merde. Et ça pourrait être anecdotique, mais non, parce que l'emoji caca fait partie des 100 emojis les plus utilisés au monde. Et moi, je vois ça, je me dis, est-ce que c'est pas un petit peu le signe qu'il faut s'arrêter, hein? On a fait le tour. Ça a été super, on a fait plein de trucs bien, l'humanité, le dos crôlé, la moussaka, Catherine Ringer, on a eu nos moments. Mais là, en plus, on oublie souvent qu'Internet, ça pollue. On s'est dit que c'est dématérialisé, donc ça va, mais il n'y a pas de conséquences. Mais en vrai, on consomme énormément d'énergie à stocker toutes les données qu'on génère sur Internet. Et déjà, j'avais eu un gros coup de déprime le jour où j'ai assisté à l'enregistrement de Taratata, de voir une dame qui était avec moi plutôt au fond de la salle et qui filmait avec son portable un des écrans géants qui retransmettait des gros plans des chanteurs. T'es en train de filmer un écran avec ton écran, sachant que tout ça finit à la télévision. Il y a déjà des professionnels sur le coup, Monique. T'es pas obligé de. Mais non, tu tiens à faire ton petit film de concert dégueulasse, là. Évidemment, tu vas aller le stocker. Tu vas jamais le regarder.
C'était le film qui était dégueulasse, pas le concert.
Non, le concert était formidable. Et je me dis déjà, c'est dommage que la planète gagne 2 degrés pour ce genre de truc. Mais depuis que je sais que l'emoji caca fait partie des 100 plus utilisés, je me dis, on est en train de faire fondre les glaces en stockant littéralement de la merde. Enfin, je veux dire, Internet est une gigantesque fosse sceptique. Ça me déprime complètement. Et alors, en vrai, je suis pas contre les émojis. Il y a des émojis qui servent à exprimer des choses qu'on n'est pas capable de produire nous-mêmes. Par exemple, l'émoji canoë. Heureusement qu'il est là. Parce que si t'as pas envie d'écrire canoë et que t'as pas le temps de fabriquer un canoë, mais que tu veux parler de canoë, émoji canoë, providentiel, formidable. Mais des excréments, je veux dire l'humain très tôt, avant même d'avoir pris conscience de sa propre finitude, de savoir s'il préfère De Niro ou Pacino, il est capable d'en produire. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même un truc, mais bon. Et surtout, vous vous rendez compte qu'en plus, c'est pas n'importe quel caca. Elle s'excuse pas d'être là. Elle sourit. Vous voyez à quoi elle ressemble? Ouais. Quelle perversité. Elle a des yeux et elle sourit. L'ultime affront. C'est une merde qui te sourit. Moi, je trouve ça. À la limite, tu vois, si c'était un signe de guerre, la mafia, tu vois, ils te mettent la tête de cheval dans le lit. Bon, voilà. Mais les gens s'envoient des dessins de merde et ils sont pas brouillés. Ces gens restent mutuellement dans la vie les uns des autres. Qu'est-ce que ça dit sur l'étiquette actuelle? T'imagines qu'on est outré quand on apprend que les Incas, ils jetaient des gens du haut d'un temple pour favoriser les récoltes. Mais au moins, à la fin, elle est chambée, leur récolte de quinoa. Nous, c'est gratuit. Voilà. Mais ils vont penser quoi de nous, les archéologues? Le jour où ils retrouvent tout ça. Il y a eu l'âge de bronze, l'ère victorienne, nous on sera quoi, le merdozoaire? Enfin, qu'est-ce que, c'est quand même très triste, cette histoire. Ils en ont même fait des objets. Vous vous rendez compte qu'il y a des coussins en forme de ce petit emoji caca. Des trucs d'une laideur abyssale, d'une inutilité intergalactique. En plus, tu le sais que pour que ça coûte rien à produire, c'est sûr qu'au moment où on se parle, il y a une ville de 2 millions d'habitants en Chine qui est ensevelie sous une boue bleue radioactive parce qu'il fallait produire rapidement et pas cher des coussins en forme d'emoji. En plus, la plupart du temps, c'est en plastique, ces trucs. Et le plastique, c'est quoi? C'est du pétrole. T'imagines des ossements de dinosaures qui traversent les millénaires, des phéniciens aux Borgia en passant par Art Laker à vif, des dinosaures qui deviennent des sédiments pendant des millions d'années, qui voient passer des comètes, des aires glaciaires et qui finissent par se transformer en pétrole pour que ça finisse en coussin en forme de merde qui sourit. Non mais c'est d'une tristesse. En plus, en cette veille de Black Friday, je voulais vous dire ce truc en particulier, c'est que, donc essayons de nous rappeler, enfin, c'est pas parce qu'on peut qu'on doit, c'est pas parce qu'on peut s'acheter un truc dont au final on risque de se foutre d'ici 3 semaines qu'il faut absolument, et c'est pas parce que certains emojis existent qu'on doit les utiliser.
Clairement.
Moi, je suis très pour l'emoji patate douce, personnellement.
Merci, Marie Rollman.
France Inter, Maggie, la bande originale.
La bande originale de d'Anaïs de Moustier et Pierre Ninet qui sont venus nous présenter Sauver ou Périr, qui sera mercredi prochain au cinéma. On va commencer en 2009, où vous écoutiez Anaïs. Vous entendez cette reprise de Madcon, vous voyez où, quoi faire
Je ne sais plus, c'est vous qui allez me le dire, non?
Bah non, c'est vous qui avez choisi. Non, mais dans votre vie, Madcon,
ah,
c'est.
Bah je me vois à Paris, j'étais très heureuse, vie sympathique, un réveil.
Musique à danser?
J'étais. Non, je dansais pas trop, peut-être pas. Non, en plus chez moi.
2009, il se passait quoi?
Puisque vous le demandez, vous êtes nommée à cette époque-là au César pour les grandes personnes.
Ah oui.
d'Anna Novion, et vous êtes aussi sur scène au Festival d'Avignon dans la mise en scène de Christophe Honoré.
Génial.
Angelo Tirant de Padoue, de Victor Hugo. Vous veniez du cinéma à cette époque-là, c'était votre grande première fois, j'ai envie de dire, parce que bon, Avignon c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qui vous a fait dire oui à Christophe Honoré?
Christophe Honoré, ouais, déjà, ouais. Tout de suite, à qui j'aurais pas pu dire non. Et puis non, mais c'était assez fou parce qu'en fait, je me disais que j'avais vachement envie de faire du théâtre. Et puis j'avais l'impression que sans avoir fait le conservatoire ou le TNS, enfin sans avoir fait une école, c'était difficile d'en faire.
Ouais.
Et à ce moment-là, Christophe m'a proposé. Et j'étais ravie parce qu'on avait tourné ensemble La Belle Personne. Et c'était une expérience incroyable. Durant laquelle j'ai observé Emmanuel Devos travailler de très près. Parce que j'avais un rôle qui était quand même assez petit, je faisais beaucoup de figuration. Il y avait notamment un acte entier dans lequel je disais rien, mais j'étais à côté d'elle et
il faut jouer. Même quand on dit rien, il faut encore plus jouer.
Ouais, il faut jouer. Mais c'était. Oh, non, mais j'étais. J'avais très 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 peur, mais j'en garde un souvenir dingue.
Et vous alliez beaucoup au théâtre déjà à l'époque ou pas? En spectatrice?
Oui, un peu. Ouais. J'avais pas mal d'amis justement qui faisaient le TNS. Donc oui, j'étais spectatrice.
Pierre Ninet, vous écoutiez en 2010.
Ah
ouais. Patrick Watson.
In your world, arms that swallowed me.
Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette musique?
Mais aujourd'hui, là, ça m'évoque en fait notre film, ouais, parce qu'en fait, c'est le même chanteur que la musique qu'il y a pour la bande-annonce de Sauver ou Périr. C'est un chanteur que j'adore, Patrick Watson.
Qui, dans la bande-annonce,
chanson qui s'appelle Broken.
Broken, ouais. C'est une voix un peu à la Ray La Montagne aussi.
Ouais. Ben, elle adore Ray La Montagne, Anaïs. Donc, on était fait pour se rencontrer. Et on a les mêmes goûts musicaux. Oui, Nagui aussi, on était fait pour se rencontrer.
Non, mais Ray La Montagne, c'est formidable.
Ouais, bien sûr. Mais moi, je connais mal, en fait. Je vais découvrir, du coup. Je vais aller écouter. On en parlait hier.
Une grosse voix que Patrick Watson.
Ouais, mais qui vient du fond de la gorge.
Ouais, plus. Ouais.
Ça donne la chair de poule.
Patrick Watson, moi, je suis fan. Frédéric Tellier aussi aime beaucoup. Donc, on en a beaucoup parlé. Et
pourquoi ça vous envoie 2010, ce titre? sur Wooden Arms.
Vous, la vérité, j'en ai aucune idée.
C'est pas grave.
J'ai aucun repère temporel dans ma tête. Moi, vous me dites 2010. Ouais, ben qu'est-ce que je faisais?
On va revenir sur une journée en particulier, ans. En 2010. Une journée où le téléphone sonne. Une certaine Muriel M.
Oui.
Au téléphone. Muriel Mayette.
Oui, l'administratrice de la Comédie Française.
Qui vous annonce?
Qui ne m'annonce pas, qui me... En fait, c'est son assistante qui m'appelle et qui me dit « Bonjour, monsieur Ninet. » Alors moi, je suis au conservatoire, j'ai fait qu'une seule année de conservatoire. Et on me dit « Est-ce que vous voulez bien venir à la Comédie Française ? Muriel Mayette veut vous rencontrer. » Et j'ai vraiment cru que c'était un canular pendant trois semaines.
Vous avez dit « J'ai pas le temps ».
Non, j'ai dit « Bon, soit c'est un canular de mes potes, parce que j'ai des potes qui font beaucoup de canulars téléphoniques, notamment Jonathan Cohen. » Donc j'ai vérifié les numéros, les préfixes du numéro et tout. Et puis je voyais que ça coïncidait avec les trucs sur Internet. Je me suis dit « Putain, c'est vraiment la Comédie Française. » Ce qui paraît fou pour un jeune acteur français qui rêve de faire du théâtre qu'on l'appelle. Et puis après, je me suis dit « Bon, clairement, ils vont me proposer soit d'être ouvreur, soit de venir... je sais pas. »
Vous aviez 20 ans, hein.
Ouais, j'avais 20 ans, ouais. J'avais 20 ans, puis j'avais aucune connexion particulière avec la Comédie Française, et donc je m'attendais pas du tout à un coup de fil comme ça. Et après, je suis allé passer une audition pour eux.
Et vous devenez le plus jeune pensionnaire de la Comédie Française. Et le même jour, je crois, vous décrochez aussi votre premier rôle au cinéma.
Oui, c'était pas longtemps après. Je crois que c'était 2-3 jours après. On m'a annoncé
L'année de la win.
Ouais. Fallait jouer au loto ce jour-là. Clairement, il se passait tout là.
Ouais, clairement.
Alignement des planètes.
Ouais, alignement des planètes. Un petit film, mais que j'adorais, qui s'appelait J'aime regarder les filles. Encore une chanson. Et et oui, c'était mon premier rôle principal au cinéma. J'étais fou de joie, quoi. J'avais envie de pleurer de joie tous les jours d'aller au travail.
En 2014, Anaïs, vous écoutiez... Ouais, ça fait le groove, en fait, quoi.
Ouais, ça se voit pas, hein.
Si, ça se voit. Pharrell Williams, Anaïs de Moustier, dans votre bande originale. Là, on est plus proche, hein, il y a 3-4 ans. Cette musique, c'était le tube du moment.
Oui, alors vraiment là, c'est basique. Enfin, tout le monde écoutait ça, quoi. Clairement. A priori, hein. Ouais.
Même si on veut pas, on tombait dessus.
En fait, j'avoue que quand vous nous demandez de chercher des chansons, je tape un peu sur Internet l'année
et
apparaissent des titres et je me dis ah oui, ça j'ai vachement écouté et je vous donne le truc. Donc forcément, pas les trucs les plus nichés que je
vous. C'est pas ça. Que vous alliez chercher même des tubes mainstream en disant voilà ce que j'écoute à ce moment-là, très bien. Mais qu'est-ce que ça vous fait d'entendre Pharrell Williams ou ça vous replonge?
Ah bah là, ça me replonge dans pas grand chose, mais ça me fait plaisir de la réentendre.
Elle a bien joué le jeu, ça fait plaisir. Ouais, hein.
Mais c'est l'année de la win. C'est l'année de la win pour vous.
Ah bon,
c'est 8 films. 8 films cette année. Vous êtes à l'affiche de 8 films en 2014.
Ah, c'est ça. C'est un moment où j'ai beaucoup, beaucoup travaillé.
Énormément. Caprice,
des films super.
D'Emmanuel Mouret, Au fil d'Ariane avec Robert Guédiguian, Une nouvelle amie de François Ozon, Larry Tournelle, Bird People de Pascal Ferrand, À trois, on y va.
Attends, c'est en combien de temps que tu as tourné tout ça?
Bah, vraiment très peu.
Une journée, elle était figurante. Hein.
Ah oui, ça va vite.
Mais c'est dingue,
pas en un an.
Il y a un moment où on me dit écoute, quand même, on te voit un peu trop.
Pardon, on parle de l'année de sortie. Après, ça peut avoir été tourné avant. Il se trouve que.
Mais ça sort la même année.
Tout se bouscule, ouais.
Tout sort la même année. Oui, ça veut dire quand même, t'as tourné.
Et Capri, c'est. Enfin, le film d'Emmanuel Mouret, le film de Jérôme Bonnel, ça s'est vraiment enchaîné.
Ouais. Plus le théâtre, Rond-Point, Démon.
Oui.
De Lars Noren avec.
Non, Démon, c'était plus tard quand même.
Bah, c'était en 2014.
Ah bon. Ok, ben
grosse année.
Ouais, j'adorais ça. Enfin, j'adore ça en fait. Et puis on m'a un peu reproché à un moment. On me disait mais fais attention quand même.
On voit
trop de choses et tout ça. Oui.
Mais est-ce qu'on a une
mais,
vie?
Bon là, moi j'avais pas envie de refuser.
Est-ce
de
qu'on a une vie à côté de ça?
Oui, j'avais une vie. Ouais. Mais après, franchement, moi, j'aime vraiment bien les tournages. J'aime vraiment bien.
C'est votre vie.
Ouais, ça fait partie de la vie. Ouais.
C'est compliqué pour vous de pas tourner pendant un certain nombre de mois. À l'époque, c'était compliqué.
Quelques jours.
Non. Ne pas tourner pendant 3-4 mois ou 6 mois, est-ce que tout d'un coup on se dit waouh, c'est le vide, le prochain c'est en octobre, ça va faire loin?
Non, c'est quand même des périodes de respiration. Ouais. Et puis pour qu'il y ait des pleins, il faut qu'il y ait ces moments de creux où on se recharge un peu parce qu'en fait on a quand même besoin d'être nourri de plein d'autres choses.
La même année, vous écoutiez Pierre Ninet, Watsky. Cause it isn't the fashion, the cash, and it isn't the trash in hotels. It's the pit of the passion you feel in the moment you crashed and you fell. They get up and you're smashing it well, like it was a pistachio shell. And you gotta be gnashing your teeth to be giving them hell. Cause to love is a radical act. Give your brother a pat in the back. And if you get a panic attack, never let it die. Ça peut aussi aller avec Sauver ou Périr.
Totalement. Et puis il dit to love is a radical act. J'adore cette. C'est les paroles de cette chanson.
Alors pourquoi cette musique?
Pourquoi cette musique? Et ben voilà.
J'ai tapé sur internet.
Alors moi, je suis allé sur un site. Déjà, j'adore ce rappeur qui est méconnu en France, même un peu aux États-Unis, mais qui est un gars que j'adore, qui a un flow incroyable, qui pour moi est un genre de Eminem d'aujourd'hui. Et
flow étant la vitesse à laquelle les paroles sont prononcées.
Ouais. Et en 2015, vous acceptez la proposition de Jalil Lesper, à savoir incarner Yves Saint Laurent. Et ce qui est intéressant, c'est que les raisons pour lesquelles Jalil Lesper vous voit aussi, c'est qu'il établit un parallèle entre votre vie de jeune homme et la vie d'Yves Saint Laurent.
Ah oui.
Est-ce que vous le saviez?
Non, je ne savais pas.
Il considère en fait
que... Tu veux dire entre le vrai et la fiction? Entre le vrai Niné...
Entre Pierre Niné et Yves Saint Laurent.
Sur la jeunesse, le fait que j'étais rentré à la Comédie Française, et Yves Saint Laurent, il a été remarqué par Christian Dior très très jeune sur un dessin, une magnifique histoire d'ailleurs. Il avait fait un dessin et Christian Dior, ça s'était retrouvé dans les affaires de Christian Dior. Et pendant une séance de travail, Christian Dior a vu un dessin d'Yves Saint Laurent. Il rejetait plein de dessins et puis il a dit « Qui a fait ce dessin-là ?» Et il a dit, on lui a dit, c'est quelqu'un qui a, je sais plus, 20 ans, quoi.
21, oui.
Et il y croyait pas, il disait, c'est impossible, il y a trop d'expérience dans le dessin, je peux pas y croire, je veux rencontrer ce jeune homme et tout ça. Et il le rencontre et il a vraiment 20 ans et aucune expérience.
C'est vrai que
génie,
de ce point de vue-là, ça va bien à Pierre Niné. C'est vrai, parce que c'est année des nominations au César, année du.
C'est ça, même itinéraire flamboyant comme ça, au tout début. Comment est-ce que vous avez réussi à convaincre Jalil Lesper ou vice-versa? Parce que Yves Saint Laurent, c'est quand même un monument. À l'époque, il y avait aussi un autre projet en parallèle, donc.
Je vais vous dire, ça tient tellement à peu de choses, la vie parfois. Je crois que je l'ai convaincu absolument sans le savoir, parce que je ne le connaissais pas encore. J'ai fait un de mes premiers shootings photos pour un magazine qui était Gala, il me semble. Grand shooting photo. Et puis, on fait des photos, et à un moment, il y a une table avec plein d'accessoires, comme parfois dans les shootings un peu de mode, comme ça. Et puis, il y a une paire de lunettes. Un peu style Yves Saint Laurent, mais bon, à l'époque, moi, Yves Saint Laurent, c'était très vague pour moi, c'était une marque, j'y connaissais rien. Et je dis, je peux mettre les lunettes sur cette photo? Ils me disent, c'est un peu bizarre et tout. Je dis, non, c'est marrant, je les mets, allez et tout. On fait les photos avec les lunettes. Et puis, un an plus tard, la publication, l'agent de Jalil donne cette publication à Jalil en disant, regarde ce gars quand même avec les lunettes, c'est peut-être intéressant. Et Jalil dit, c'est sûr. Et on se rend compte à cause de cette photo. Et ce jour-là, je ne sais pas du tout qu'en mettant les lunettes un peu pour faire le con sur un shooting.
Votre vie a basculé. Ouais,
si vous aviez mis un maillot de bain, vous auriez pu faire camping.
Oui.
Vous vous rendez compte?
Ouais.
Pensez à ça.
J'y avais pensé.
Débrouille-toi avec ça.
Sabrina Belkacer, merci. Belém Kasser, pardon. Merci de venir à ce micro. Vous êtes donc psychologue clinicienne au centre de traitement des grands brûlés de l'hôpital Saint-Louis. On l'a évoqué tout à l'heure déjà avec Anaïs de Moustier et Pierre Niné. Le rôle de vos métiers, vous les psychologues, est de tout faire pour que et la famille et les grands brûlés ne lâche pas prise, s'accroche.
Tout à fait. Alors effectivement, il y a le patient d'un côté qui vit un traumatisme effroyable, où effectivement il y a la vie d'avant, la vie d'après, où il y a une défiguration. Alors dans le cas du personnage de Franck qui touche en plus le visage qui finalement est l'identité complète du sujet. Donc on perçoit très vite que la destruction de l'être et à côté de ça la famille qui vit ce cauchemar où en plus il y a cette femme, les enfants.
Mais alors quel est le rôle du psychologue justement?
Alors justement le rôle du psychologue c'est de auprès du patient déjà de pouvoir alors dans un premier temps toucher son corps, lui redonner ses limites, le regarder, parce qu'effectivement, il
ne se... pardon, au-delà de la douleur, parce qu'il y a aussi des scènes très très fortes dans le film où on voit que la peau doit se reconstruire, il y a des grèves de peau, et heureusement, il y a des progrès incroyablement formidables qui se font.
Au-delà du travail psychique, tout ce travail chirurgical aide, et le travail des soignants au quotidien, d'être auprès du patient, toute la journée, de lui parler, de le regarder, parce qu'effectivement, il ne se voit pas, et dans ce temps, au centre des grands brûlés, je pense qu'il y a une incapacité à traiter cette nouvelle image de soi, c'est trop violent.
Comment se reconstruire? Comment repartir et être une femme ou un homme nouveau avec un sentiment d'être plutôt un homme ou une femme détruite ou détruit?
Alors moi je pense que c'est le lien social, le lien familial, le lien avec les soignants, avec le psychologue, les médecins. C'est tout ça qui va aider la personne à se reconstruire, parce que finalement, on devient le miroir du patient. Donc, finalement, c'est avec en l'écoutant, en le je répète, il n'y a pas juste ce travail psychique, il y a vraiment tout l'aspect corporel où en étant là, en tenant la main, il y a cette magnifique scène avec l'infirmière avant qu'ils partent du centre des brûlés.
Joué par Chloé Stéphanie, oui.
Voilà, tout à fait, où ils ont cette conversation et ils se serrent ils tombent dans les bras l'un de l'autre et je pense que c'est tout ce lien. Qui va aider alors, à reconstruire.
Il y a quelque chose de fort aussi, et dont on se rend compte grâce au film et à l'interprétation de Pierre Ninet, c'est la rage que le patient peut avoir contre lui.
Tout à fait.
C'est-à-dire que c'est pas que le problème vis-à-vis des autres, c'est qu'il finit par se détester.
Tout à fait. Alors, c'est très lié à la culpabilité aussi d'imposer cette vision monstrueuse. Et il le dit, Franck, il dit à sa femme, est-ce que t'as envie d'un monstre? Et c'est cette problématique qui est effectivement très, très forte et qui donne lieu à une rage, une haine.
Et les enfants qui pleurent.
Ouais, comment le gérer? Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, votre rôle et ce que vous apportez aux patients.
Alors, c'est une construction qui va être longue, laborieuse, et où on va essayer de titiller les capacités créatives du patient, d'essayer de trouver dans tout ce changement ce qui est inchangé justement, ce qui est inchangé en lui, dans son caractère, dans sa force, et tout ça vraiment en lien avec la famille.
Ce que lui dit un moment l'infirmière jouée par Chloé Stéphanie, elle lui dit vous vous doutez pas du tout de toutes les ressources que vous avez
tout
en vous
fait.
En fait, et on se
tout
rend compte fait. Que alors effectivement l'homme n'est pas invincible, c'est ce qu'il dit lui en tant qu'ancien pompier, en plus c'est très fort, hein. Ils nous l'ont dit, les pompiers parfois on ne pense tellement pas au danger, et en même temps on n'est pas invincible, mais on est quand même potentiellement tous un peu héroïques, quoi, de trouver cette force en nous pour se relever, c'est magnifique.
L'entourage, la famille, c'est évidemment essentiel dans votre expérience.
Oui.
vous constatez vraiment deux poids deux mesures entre ceux qui sont aidés et abandonnés par leur famille.
Ah, tout à fait. Dès le début de
la
prise en charge.
Je parle dans la reconstruction.
Oui, tout à fait. Dans la reconstruction, alors effectivement, on a des patients qui sont quittés par les conjoints, qui sont abandonnés par la famille, et cela c'est d'autant plus difficile parce que effectivement, ça vient donner du crédit à cette idée qu'ils sont monstrueux et qu'ils sont forcément que rejetés par la société, par leur propre famille, et c'est effectivement très compliqué. Et c'est là où le rôle des professionnels peut venir alors apporter une petite goutte d'eau, même si voilà, ça remplace pas la famille. Mais...
Et on le voit dans le film, ça mène à des situations financières aussi compliquées pour un foyer avec des enfants. Et le retour à l'emploi aussi pose question. Est-ce que vous les accompagnez aussi jusque-là? Est-ce que vous leur donnez des conseils? Parce que finalement, dans le film, on nous explique que le regard de Franck, le pompier, lui, va pouvoir évoluer. Mais le regard des gens, finalement, la première rencontre va toujours être un petit peu saisissante, en tout cas.
Tout à fait. Alors effectivement, on essaie de travailler vraiment en équipe avec assistante sociale, etc. Il y a l'association des Brûlés de France aussi qui a vraiment cette aide au niveau de la réinsertion sociale, qui va effectivement accompagner les patients au rendez-vous, essayer de négocier des changements professionnels au sein des patients qui ont une place avant l'accident au sein de l'entreprise, de pouvoir les accompagner pour qu'ils retrouvent une autre place. Mais c'est effectivement un travail extrêmement long.
La reconstruction, elle n'est pas que physique, elle est psychologique, vous venez d'expliquer, mais pourtant, il y a eu des progrès qui ont été faits pour la reconstruction physique. Je sais qu'au Téléthon, on a beaucoup parlé de découvertes qui avaient été faites, qui permettaient justement de greffer et de soigner des grands brûlés.
Oui, tout à fait. Alors ça avance, effectivement, il y a de moins en moins de décès chez les grands brûlés, même s'il y a toujours, effectivement, ils sont sur le fil entre la vie et la mort dans les premiers temps, mais il y a de plus en plus d'avancées. Et effectivement, le problème, c'est qu'on est dans deux temporalités différentes, c'est que même si la médecine avance et que le patient, finalement, sort du centre des brûlés en étant recouvert au niveau de sa peau, mais au niveau psychique, effectivement, il y a un temps de qui est différent, et du coup, il va falloir synchroniser les deux.
Plus long, en plus.
Tout à fait.
Et quel discours vous tenez à ces grands brûlés sur la suite, c'est-à-dire l'apparence physique, parce qu'on voit bien que les greffes, même si elles ont évolué, on retrouve pas vraiment ses traits, son visage. On peut s'attendre à un miracle après une vingtaine d'opérations.
Tout à fait. Les patients sont vraiment dans ce fantasme, et je pense que c'est vital en même temps qu'ils aient ce fantasme, qu'il y a possibilité à un moment donné de retrouver son visage. Mais l'idée, c'est de pouvoir quand même les les accompagner progressivement dans l'idée que le visage ne sera plus le même, mais qu'il va falloir faire avec ce visage.
Dernière question, avez-vous retrouvé la réalité, la justesse de ce que vous connaissez au quotidien des problèmes des grands brûlés dans le film ?
Tout à fait, c'était vraiment d'une réalité psychique criante et je pense que c'est un film qui va aider les grands brûlés, mais nous aussi
pas
soignants.
Uniquement.
Pas uniquement.
Pas uniquement, je vous assure, pas uniquement.
Voilà.
Pas uniquement. De se dire aussi que lorsqu'on est en bonne santé, il y a une sorte de carpe diem, on est à l'abri
tout
de
à fait.
Rien.
Tout à fait.
Et on se projette, c'est vrai, grâce au film, soit dans l'entourage, soit en se disant si j'étais malade et si j'étais à côté et si j'étais l'un des membres de la famille, comment je réagirais. Et il y a une leçon.
Ce que moi j'ai vraiment ressenti aussi avec
l'étude.
Après, excuse-moi.
Ah, j'aurais oublié. Non.
Alors vas-y.
Non, j'allais dire qu'on vit dans une époque.
Ah non, voilà ce que je veux dire.
Assez individualiste et assez. Dans laquelle on nous fait croire qu'on est un peu invincible, justement, et que le film parle à la fois beaucoup du lien et nous rappelle qu'on est vulnérable. Et qu'en fait, je pense que c'est pour ça que le film touche autant les gens.
C'est
dans les avant-premières qu'on.
Un peu, oui. Moi, je me souviens que quand j'étais avec les sapeurs-pompiers de Paris, qui ont aussi une grande jeunesse, mais une grande conscience de questions essentielles, la vie, la mort, la fragilité de nos existences et tout ça. Un jour, on était en intervention. Je suis parti une nuit et il y avait un monsieur qui avait fait un AVC. Donc les pompiers sont montés et moi, je tenais la porte en bas pour qu'il passe le matériel avec le sergent Badi qui a fait toute ma formation. Et on était en bas et il y avait des terrasses de café aux Halles à Paris. Et puis je regarde les gens. Ça faisait déjà 3 semaines que j'étais en immersion avec les pompiers, et puis je dis, oh là là, je trouve ça magnifique les gens en terrasse là, ils boivent des coups, ils sont libres, ils sont en famille, ils rigolent, et d'un coup j'avais cette perception que t'as pas souvent en fait, de me dire c'est trop beau quoi, et je lui dis ça, et il me dit, ça faisait déjà des mois que j'étais avec lui, et il me dit, bon bah ça y est, t'es pompelard. Il me dit ouais, t'es pompelard, t'es pompier, t'es prêt. Il me dit, c'est vraiment une parole de pompier, ça.
Merci Sabrina Bellem-Gasser d'être venue à ce micro et bravo pour tout ce que vous faites avec vos équipes. Hier, Tanguy Pastureau, le prince d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed Al Nanyan, c'est ça ?
Oui.
Vous avez fait exprès de me le mettre ?
Oui.
Dans la phrase, était en visite.
Oui, j'ai préféré vous mettre son nom dans le lancement pour pas avoir à le dire moi, parce que c'est trop fastidieux. Je veux dire, par rapport à des gens qui s'appellent juste Tex. Hein. Ce prince, on l'appelle MBZ, c'est un peu comme MBS, le prince saoudien. Ils ont la même culture de la guerre atroce et de l'assassinat sauvage.
On en parle après les infos midi.
Ouais.
Original, soyez les bienvenus avec Leïla Kadobou-Dagui, Marina Rollman, Tanguy Pastureau, Ali Aragou, Daniel Morin,
ouais.
Et nos invités Anaïs de Moustier et Ferdinand.
Bravo.
Dans un film très 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 bon film, on est d'accord Leïla ?
Oui, on est d'accord.
Sauver ou périr, réalisé par Frédéric Tellier. Il a quel âge d'ailleurs Frédéric Tellier ? Je ne me rends pas compte. À sa réalisation.
Il a 49.
Ouais.
C'est très possible.
Ouais.
Je dirais un peu moins.
Mais moi aussi, en fait, je dirais 42, mais apparemment, hier, on m'a dit qu'en fait,
il en fait
plutôt. Non, il fait très, très jeune, et même, il a une énergie dingue. Et...
Il avait réalisé SK1,
oui.
et donc ce film qu'il porte à bout de bras, puisqu'il en a écrit l'histoire, il s'est intéressé à des histoires vraies, il a co-dialogué dans le travail sur le scénario, il en a fait de la musique, il le réalise, donc on sent vraiment que c'est quelque chose qui lui parle. Et puis dans la dédicace, on sent aussi qu'il y a quelques...
Oui, à la fin du film, famille... sans la révéler, mais on sent que c'est un film très intime pour lui. Ouais.
Personnel, voilà. À vos côtés, tout aussi brillant et brillante, Chloé Stéphanie, Vincent Rottier, Samy Bouajila, Elisabeth Comelin qui joue votre maman. Et il y a une scène qui est bouleversante lorsqu'elle vient à l'hôpital et qu'elle est de l'autre côté d'une vitre isolée à l'interphone, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et qu'elle communique avec son fils.
Et son premier mot, c'est quand même maman, ce qui est très beau.
Son nouveau premier mot de sa nouvelle vie, c'est maman.
C'est maman.
Je vais vous dire, nous, en le tournant, on n'en menait pas l'argent.
Ouais. Non, c'est tellement fort.
Il y avait des scènes très fortes comme ça à tourner.
Damien Bonnard, Adama Nyan, Amélie Benadi, Calypso Bouichtenhuidj et Yacine Ouicha. Je ne serais pas complet sans citer, évidemment, Yannick, sa mot formidable dans
Bien sûr.
Rééducation et dans le kinésithérapeute et dans la livraison de mozzarella.
Un grand fou rire avec lui. Il joue effectivement un kiné. Et voilà, il y a eu des moments de grand fou rire sur ce film aussi qui permettaient de relâcher la pression de ces émotions très intenses qu'on racontait tous les jours. Et ouais.
Mais vous êtes d'accord quand je dis que ces trois ans sont construits en trois périodes le rêve de la vie, le cauchemar de l'accident et la reconstruction. Ça vous va comme résumé du...
Complètement. Je crois que le film s'appelait au départ Sauver, Périr et Renaître.
Mmh, tout à fait, ouais.
D'accord.
Donc Nagui, vous êtes en plein dedans là. On est bon.
On est bon.
Je garde cette phrase pour un jingle personnel. Voici Tanguy Pressureau. Tanguy, hier, la France recevait un invité de marque.
Oui, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi. C'est un peu comme le prince George, sauf que si en visite en Angleterre, Charles se met à lui talquer le fessier, il dira « Mais qu'est-ce qui nous arrive ?» Comme Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, c'est trop long, on l'appelle MBZ. Il y a aussi MBS, Mohamed Ben Salman, le prince saoudien, et MBK, mais rien à voir, ce sont des vélos. Hein. Anne Hidalgo préfère MBK, mais c'est parce qu'elle n'a jamais monté ni sur MBZ, ni sur MBS. Alors que les deux ont des petits bourrelets dans le bas du dos qui sont pas dégueulasses niveau confort. On mange bien quand on est un prince. Bref, MBZ, le gonze d'Abu Dhabi, c'est un sociopathe de compète. Jason dans Vendredi 13 à côté, c'est Nemo le poisson clown qui joue à touche pipi avec un dauphin. On l'appelle le prince va-t-en-guerre. La différence par exemple avec le prince de Bel Air, c'est que lui aurait défoncé l'oncle Phil au mortier la première fois où l'autre l'aurait interdit de sortie. À cause de lui, Abu Dhabi est le 4e importateur d'armes de la planète, alors que le bled est moins grand que le slip de David Douillet. Et il ne fait pas que les regarder, ces armes. Il les utilise au Yémen. Vous savez, c'est ce pays où 85 000 enfants sont morts soit de faim, soit de maladie. Et le type continue à pioncer le soir. Moi, je renverse un gamin en voiture, je suis là à m'excuser auprès de la maman, lui expliquer qu'on peut se débrouiller dans la vie sans ses jambes, lui dire regardez Oscar Pistorius, il a fait une belle carrière de meurtrier. Hein. Mais lui, 85 000 gosses clamsés, il s'en fout. Il a le quotient émotionnel d'une huître. Au bassin d'Arcachon, il se ferait gober avec un coup de blanc sec par Pascal Obispo venu en week-end. Au Yémen, Abu Dhabi et l'Arabie Saoudite combattent les rebelles houthistes qui sont des chiites alors que sont sunnites. Mais ça, les enfants qui meurent, ils s'en tapent. Ils sont pas aussi cons que nous. Une fois, ils écoutent les Bogdanov leur expliquer le Big Bang, ils disent ok, là-haut, il y a rien à part Ségolène Royal parce qu'elle est perchée, et ils passent à autre chose. Plus on vieillit, plus on est con. Vous mettez les Kids United à l'Elysée, on s'en sort mieux qu'avec Macron. Donc là, on s'est dit c'est pas possible, Macron va se ressaisir. Brigitte va lui dire bébé, laisse tomber cette ordure d'MBZ. Toi et moi, on se casse au Touquet en jet, vu du ciel, les gilets jaunes, c'est rigolo, on dirait de grandes taches de pipi à chaque rond-point. Mais non, parce que c'est la réelle politique. Macron, c'est Francis Underwood de House of Cards dans le corps du gosse qui fait la mascotte des confitures Andros. Quand Sarkozy avait reçu Bachar et Kadhafi à Paris, tout le monde était monté dans les tours, à raison, mais là on a MBZ, l'Hannibal Lecter des Émirats, et on a entendu qui ? Personne. Ça vaudrait le coup d'ouvrir sa gueule, 85 000 enfants morts. Parce que moi je regarde les JT, on en a plus fait sur trois flocons qui tombent dans un champ pourri que sur le fait qu'on papouille les pires enflures de la planète.
Mais quel est le lien entre la France et Abu Dhabi ?
Eh bien, une base militaire française qui a été installée là-bas en 2009 par Sarkozy. Hein, parce que lui, là, on ne voit plus que le petit pépère à la retraite en train de faire bouillir les cordes de la grotte de la gratte de sa meuf. Mais il a joué son petit rôle néfaste dans la région. Hein, la base est bien située en face de l'Iran. C'est comme quand à Quiberon, on a le Airbnb qui donne sur la mer, sauf que nous, on n'a pas envie de tirer sur Francis Joyon s'il passe en bateau. Donc, Abu Dhabi, c'est stratégique et on leur vend de l'armement. Florence Parly, la ministre de la Défense, Abu Dhabi lui prend tout son stock. Elle se retrouve dans la situation du seul épicier qui vend des bières à Rennes quand il est 3h du mat un samedi. Donc Macron va pas tout remettre en cause parce qu'MBZ et MBS tuent des enfants. Hein, je suis sûr que quand il mate The Voice Kid, il s'émerveille devant le premier gosse qui glapit du Black M. Mais il arrive à faire la distinction entre les nôtres et les enfants yéménites. Il se dit c'est pas pareil. D'ailleurs jamais Nikos n'a fait un hug à un gosse de là-bas. Mais moi j'aurais honte. Mais quand on est président, c'est comme ça. C'est le job qui veut ça. Macron fait juste la même chose que Hollande, Sarkozy, Chirac, etc. avant lui. Si tous ces gens avaient fait un album, on aurait dit à Goldman, rebaptise ta troupe, mec, parce que les enfoirés, concrètement, c'est eux. Alors hier, une ONG, l'Alliance Internationale pour la Défense des Droits et des Libertés, a porté plainte à Paris contre MBZ pour complicité de crimes de guerre. MBS, le Saoudien, quand il est venu en avril, a lui aussi été visé chez nous par une plainte d'une association yéménite. Donc Paris, ça leur réussit pas. Hein, dès qu'ils arrivent, on les embête. Après, ils disent à Macron, mais tu fais rien, tu les emprisonnes pas, tu les découpes pas dans le consulat. Mais c'est bizarre ta façon de faire de la politique. Macron est obligé de leur expliquer le principe de la démocratie, mais ils captent rien. C'est comme d'essayer de présenter l'œuvre de David Lynch à Mamie Ghislaine qui regarde juste Plus belle la vie. Hein, interrogé hier par la presse, une fois qu'on a réalisé que la neige, il en était tombé un demi-centimètre dans l'Ain, l'Élysée a précisé que la visite d'État d'MBZ était, je cite, l'occasion de travailler ensemble à la paix et à la stabilité au Moyen-Orient. Donc là, j'ai cherché l'auteur de la vanne, hein, Tebs, Gad Elmaleh, Castaner, enfin un humoriste. Hein. Mais c'était pas marqué. Mais si demain on sait qui c'est, moi je lui laisse ma place. Déjà, bon, je suis crevé. Hein, et un gonce capable d'écrire que MBZ et MBS, les deux mots à mettre de l'enfer sur Terre, sont foutus de stabiliser la région, il est fort. Même stabiliser une table, ils sont pas capables. Ils mettent sous le pied la déclaration des droits de l'homme pliée en 12, la table bouge encore. Oui, selon l'ONG Save the Children, 85 000 enfants sont morts au Yémen, et même s'il y en avait deux ou un, mais moi je le dis, fuck MBZ et MBS, je garde juste MBK, ok, les selles sont un peu dures, mais ça fait moins mal au cul que les deux autres.
Bravo. Sauver ou périr, Anaïs de Moustier et Pierre Ninet sont nos invités pour ce film réalisé par Frédéric Tellier. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Enfin, on imagine que c'est dur de jouer avec un masque, avec des bandages, et de jouer sans pouvoir avoir les expressions du visage qui vous aident.
Ouais, c'était un des challenges du film. On savait qu'il y en avait plusieurs. Le maquillage c'était spécialement long. Il fallait vraiment que je trouve. C'était 3 à 4 heures le matin. 1h30 le soir, donc j'étais un peu le premier arrivé, le dernier parti, donc il fallait que je trouve un endroit mental un peu agréable pour ces heures de travail, parce qu'en plus c'est vraiment des artistes qui font ça, ils prennent vachement de temps, avec en plus cette demande un peu ingrate de leur dire il faut faire quelque chose de très réaliste mais d'invisible d'une certaine manière, on veut pas que le spectateur s'attarde à se poser des questions, on veut qu'on soit concentré sur les yeux de l'acteur qui sont toujours le plus important, et du coup ils ont fait un travail remarquable, ça prenait beaucoup de temps.
Ouais, mais d'autant qu'il reste les yeux et les lèvres que l'on peut apercevoir et qui sont déjà brûlés, qui sont enflés, torturés, ouais. C'est-à-dire le moindre petit bout de peau à cet effet spécial. D'un côté, c'est une contrainte de jouer avec un masque, de l'autre, ça aide, j'imagine, au rôle.
Je trouvais ça très libérateur, moi. Je trouvais ça très intéressant. Je savais pas trop où j'allais, c'était un saut dans l'inconnu, hein, ce film à plein de niveaux. Mais je crois aussi que, au-delà des masques et des contraintes techniques et tout, même si, voilà, moi, encore une fois, ça m'a permis d'explorer, je crois, des nouvelles zones de jeu et artistiques et intimes. Au-delà de ça, avec Anaïs, on était, vraiment bouleversé par les gens qu'on a rencontrés, quoi. Les gens qui ont vécu ces vies, qui ont eu des accidents, petits ou grands, encore une fois, peu
là,
importe.
Là, vous parlez des accidentés ou du personnel
des
médical?
Des accidentés, mais aussi du personnel médical, les infirmiers, les infirmières qu'on a rencontrés, ouais. Les pompiers, évidemment, ceux qui ont eu des accidents, ceux qui n'en ont pas eu aussi. On était tellement bouleversés par ça que ça nous a énormément aidé pour toutes les scènes.
Comme nous, Anaïs, en voyant le film, vous, en le jouant, vous vous projetez aussi, vous posez des questions, ça vous a grandi finalement de jouer ce personnage?
Moi, quand je joue, non, je suis vraiment très concentrée sur ce que vit le personnage que je joue. J'essaye de la comprendre, j'essaye de
vous identifier
de comprendre les moindres... Ouais. Questionnement, enfin, de comprendre son parcours et pourquoi elle dit ça, pourquoi elle fait ça, et pour que ça soit singulier, quoi, que ça soit pas juste le.
À aucun moment vous dites, et moi dans cette situation, j'aurais fait quoi?
Non. Je me suis vraiment très peu posé cette question.
Et maintenant avec le recul?
Et bah maintenant avec le recul.
Sans avoir la réponse, encore une fois, mais c'est le sentiment, je sais pas toi, Léla, mais quand on voit ce film, on se demande. Comment on réagirait, comment on se comporterait.
Femme de pompier, c'est aussi un sacerdoce, quoi. Je veux dire, c'est pas. On parle beaucoup du personnage du pompier, mais être là, attendre qu'il rentre, à. Ouais, on se questionne, on se dit, est-ce que j'ai envie d'être avec un pompier, moi, demain,
enfin... Oui, c'est vrai que ça, même quand on présente le film dans les salles, il y a beaucoup de témoignages de pompiers, ouais. Ou de ouais. Femmes de pompiers, de filles de pompiers. Et c'est vrai que ça, c'est une chose que j'avais pas mesurée. C'est à la fois le degré de déni des pompiers eux-mêmes. Il y en a, c'est un pompier qui a employé ce terme-là, du danger qu'ils prennent quotidiennement, et puis oui, les concessions faites par leur famille. Et je me souviens d'une fille de pompier qui a dit vraiment, mais je me souviens que mon père a eu peur toute sa vie, parce que là c'était la mère qui était pompier, et ça c'est une chose que j'avais pas mesurée avant.
C'est un film fort, c'est un film prenant, c'est un film touchant.
Complètement. Donc, Nagui, vous êtes en plein dedans là.
Merci Anaïs.
Oh là là, il a déjà fait son jingle.
C'est...
Mais j'ai dit aussi, on est bon.
On prépare, on prépare. Deux secondes, on est étape par étape, on va pas tout dévoiler tout de suite. Sur la reconstruction après un accident aussi grave que celui vécu par le personnage joué par Pierre Niney dans ce film, on le voit bien, Daniel, hein, c'est un long chemin sur lequel il faut être accompagné par des professionnels, des psychologues, mais aussi par ses proches, sa famille. Il y a beaucoup de générosité, d'amour, limite religieux par moments qui...
Nom de Dieu, monsieur Guy, espèce de chien galeux, de nazi, de gilet jaune. Leïla, fais-moi voir la totalité de ta gourde remplie, un quart GHB, un quart Poppers, un quart Viandox, un quart glyphosate. Oh non, en fait, fais-lui boire l'autre Astaquer qu'il en décède dans d'affreuses souffrances. Souffrances qu'on diffusera en Facebook Live sur le site de l'émission. Ça me fera du bien et en plus, on passera sûrement devant RTL. Et puis, qu'est-ce que vous y connaissez en matière d'accompagnement de personnes physiquement abîmées, hein? On n'est pas expert parce qu'on est victime, comme vous, d'un physique disgracieux. Oui, parfaitement. Victime, monsieur Guy. Niveau physique, Dieu vous a puni d'un truc sûrement très grave pour vous donner ce corps rachitique, flétri et rabougri à la fois, le tout surmonté d'une tête qui fait peur aux gosses et aux chiens. Alors, oui, je sais. Vous êtes peut-être compatissant comme Michel Fourniret devant une fosse commune. Vous êtes peut-être généreux comme Dodo la Saumure devant un bordel. Vous êtes peut-être empathique comme Bachar al-Assad devant une prison. Mais vous êtes définitivement con comme un crucifix devant un djihadiste. La vraie, la seule personne qui s'y connaît en générosité désintéressée, qui a le cœur sur la main, c'est moi. Sweet little me. Moi, qui plusieurs fois par jour, depuis la semaine dernière, rends visite et s'occupe de la pauvre Marina Rollman. Marina qui essaye de se reconstruire après un accident d'escalier qui lui a fait perdre ses dents, la vue et accessoirement son honneur. Et notre pauvre Suissesse, si sa mâchoire fonctionnait, si elle n'avait pas perdu sa langue, sectionnée dans la chute, elle vous dira à quel point elle a été seule dans cette épreuve. Et qui, si j'avais pas été là, elle aurait envisagé le pire, à savoir emménager chez vous, monsieur Guy. Bref, une fois encore, mon pauvre ami, vous avez dit...
N'importe quoi !
C'est ça.
La bande originale, Maggie, sur France Inter.
Il y a un point aussi qui est fort, parce que c'est vrai que tout part de la vie de pompier, mais ça pourrait partir, et c'est dit par votre personnage dans le film, d'un accident de moto avec un motard, et on a trop de copains chacun autour de nous, où on a connu voilà, un jeune où tout lui souriait, puis la moto, l'accident, alors... Par moment, la mort, question d'ailleurs que se pose votre personnage, vaut-il mieux mourir ou rester dans l'état dans lequel il est après son accident et subir cette reconstruction, en a-t-il la force? Mais c'est vrai qu'il y a aussi des drames invisibles. Alors, comme des cancers ou des maladies qui sont pas forcément qui n'attirent pas forcément l'empathie puisque l'entourage ou la société ne le voit pas. Ce discours-là est un moment clé du film parce que d'un coup tout le monde est concerné et pas bien uniquement les combattants du feu.
Bien sûr, on est tous concernés parce qu'on est tous
Du feu. Oui.
Ouais, on est tous fragiles à la même enseigne, on est tous mortels, on est tous et comme il le dit très bien le personnage de Franck, personne n'est invincible. Donc c'est encore plus fort avec un pompier de Paris parce que c'est des métiers tellement héroïques d'une certaine manière. Mais c'est ce qu'on voulait faire depuis le début. Avec Frédéric, on s'est toujours dit, on veut que ce soit un film qui parle à tout le monde et qui te fasse repenser à ça, quoi, à notre finitude, à notre fragilité, et en même temps que c'est ça qui est magnifique dans la vie, quoi. C'est le grand paradoxe, quoi. Voilà, cette fragilité fait que nos vies sont absolument magnifiques aussi, et le film raconte ça aussi. Et comment, dans des petites choses de la vie, finalement, bah si tu regardes bien, et c'est qu'une question de disposition d'esprit, bah il y a souvent caché à l'intérieur les grandes choses de la vie, finalement. Le film parle aussi de ça.
Reconstruction, résilience, et puis sublime interprétation de cette bande de comédien dirigé, forcément bien dirigé par Frédéric Tellier, parce que pas de secret, hein, quand autant de comédiens sont bons, bien filmés, bien éclairés, il y a quand même un mec qui est responsable de tout ça.
Ouais, complètement. Il était très bienveillant, c'est quelqu'un de très doux et qui est absolument pas dans la posture du réalisateur. Enfin, il a pas besoin de prouver qu'il est le réalisateur du film, mais il est extrêmement présent et en même temps il a aussi de la pudeur, ce qui était nécessaire pour ce film-là, qui était quand même risqué, je pense. Et puis il a pas peur de styliser les choses, il a pas peur de... Il y a une vraie recherche esthétique dans ce film.
Dans les projets à venir, au-delà de ce film, Le Sauver ou Périr, qui sortira mercredi prochain, le 28, vous avez tourné, Anaïs de Moustier, La Fille au Bracelet. Ou vous allez le tourner?
Non, je l'ai tourné.
C'est fait?
C'est le film de mon frère.
C'est ce que j'allais dire, oui, le hasard de la vie, le réalisateur, vous le connaissez bien, Stéphane.
Ouais.
Ça sort quand?
Ça sort au deuxième semestre 2019.
Et ça,
donc, je ne sais pas la date exacte, mais bientôt. C'est un film de procès qui se passe essentiellement dans un tribunal dans lequel je joue le procureur de la République. C'était génial.
Et être dirigé par son frère, ça donne quoi comme sentiment ?
Dirigé par son frère, c'était assez merveilleux. J'avais fait un court-métrage avec lui, dont j'ai gardé un souvenir franchement pas très agréable. Et là, j'ai adoré. Là, j'ai vraiment, on avait grandi tous les deux, je pense, et donc c'était, il y avait que
c'était
du plaisir.
Le moment de le faire.
Ouais.
D'accord. Quant à vous, non, pardon, c'est encore Deux Fils, c'est encore vous,
Deux
Anaïs.
Deux Fils, oui, c'est moi, c'est encore moi. C'est le film de Félix Moati avec Vincent Lacoste et Benoît Poulvorde. Fantastique film qui sort en février.
Et Alice et le maire.
Et Alice et le maire, film de Nicolas Pariser, grand réalisateur qui avait fait Le Grand Jeu avec Melville Poupeau et Dusselier. J'ai tourné son deuxième film avec Fabrice Lucchini, qui sortira en septembre prochain.
Mais vous faites quoi, Pierre, alors ? J'ai aucun projet sur vous.
Ouais, bah là, je me sens un petit peu...
comme il y a 4 mois d'intervention, de préparation,
ouais, c'est ça,
de 10 kilos de muscles à chaque fois, il peut en faire moins.
Fatalement. Non, je vais faire
Quelles
un film...
Quelles sont vos envies ?
Ouais. Je vais faire un film avec Nicole Garcia, qui démarre d'ici un mois ou deux, et puis avec
Qu'elle réalise, dans lequel
Elle ne joue pas dedans, d'accord. Elle le réalise, c'est une histoire d'amour passionnante, passionnée et un peu noire, avec Stacy Martin et Benoît Magimel.
Et vous choisissez vos rôles l'une comme l'autre sur quels critères ? Tout à l'heure vous parliez de Frédéric Tellier en disant je ne connaissais pas Frédéric Tellier, mais c'est l'histoire qui m'a plu. J'imagine qu'il y a d'autres moments où à l'inverse on a envie de travailler avec un tel et peut-être pas quelle que soit l'histoire, mais on se dit ouais.
Ouais, moi c'est vraiment ça, c'est vraiment
c'est la signature qui compte. Mmh. Ouais. Vous, c'est le metteur en scène qui compte pour vous ?
Oui.
D'accord.
Parce que le rôle peut être tout petit. Enfin, je l'avais fait, par exemple, chez Quentin Dupieux. Si le metteur en scène me c'est plaît, je peux vraiment faire tout et n'importe quoi.
Et Pierre, ce sont les histoires qui vous... Alors là, en l'occurrence, pour Sauver ou Périr, c'est l'histoire
d'un... Ouais, une bonne histoire. Alors, j'ai l'impression qu'on cherche un peu toujours la Sainte Trinité, qui est le bon rôle dans une bonne histoire, avec un bon réalisateur. Ces trois ingrédients sont très durs à réunir en même temps. Donc c'est toujours un peu ce qu'on cherche. J'ai l'impression qu'avec Sauver ou Périr, c'est vraiment ce qu'on a eu la chance de trouver, vraiment. Là, par exemple, Nicole Garcia aussi, j'ai l'impression que c'est le cas. Et puis j'avais très très envie de travailler avec Nicole Garcia. C'est sûr que le metteur en scène compte pour beaucoup.
Et d'écrire vous, ouais, et de réaliser vous.
D'ici un an et demi, je pense, démarrer le tournage d'un film que j'ai écrit depuis plusieurs années. Entre les tournages, j'ai essayé d'écrire à chaque fois. Donc ça fait déjà au moins 5-6 ans que j'écris. Et
c'est une comédie, un drame.
Une comédie dramatique, ouais. Ouais, axée sur la comédie quand même, où il est beaucoup question du rire et de la joie humaine. Et de.
Quelles sont vos références de vos repères de réalisateurs ?
Pour ce film-là en particulier, le Truman Show serait une grande référence pour
moi.
Ah
oui ?
Ouais.
Ouais, d'accord.
C'est le seul que je vois. Le casting, je peux pas encore dire.
Ah. Mais vous
y êtes. Je peux dire que je suis content. Ouais, je pour le moment, je suis content et je suis dedans aussi par la force des choses. Je voulais vraiment pas jouer dedans. Ouais. Je voulais vraiment pas jouer dedans parce que jouer et réaliser, c'est un travail monstrueux. J'ai énormément d'admiration pour les acteurs qui arrivent à faire ça, comme Guillaume Canet, et être devant, derrière en même temps. Je trouve ça extraordinaire. Je voulais pas du tout m'infliger ça parce que je l'ai fait sur ma petite série casting qui était déjà des épisodes de 3 minutes et déjà quand je devais me mettre en costume et plus regarder mes acteurs, c'était cauchemardesque. Mais je vais quand même le refaire par pur masochisme.
D'accord, mais c'est parfait. En tout cas, bravo pour Sauver ou Périr. Le film sortira le 28 novembre. C'est bon, là ?
Complètement. Nagui, vous êtes en plein dedans, là.
Parfait.
On est bon.
On est bon. Des excuses à présenter, Daniel.
Bien évidemment. Et désolé pour la pudique Anaïs de Moustier qui se retrouvait à parler de ses entrailles et de son accouchement. Alors, je tenais à vous signaler, pour plus d'informations, on a mis la vidéo de l'événement sur le site de l'émission. Je crois que c'est disponible dès maintenant. Et surtout, bon appétit, bien sûr. Désolé pour Pierre Ninet, j'ai eu des producteurs américains à la pause. Alors, pour Ethic Man, le rôle est déjà pris par Donald Trump. En revanche, il y a un projet avec le personnage de Super Passoire. C'est un flic qui n'attrape personne. Ça pue le succès. Désolé pour la caserne Jaurès dans le 19e arrondissement, la résidence secondaire de Leïla Kadour Boudadi. Alors je vous préviens les gars, elle débarque chez vous cet après-midi et elle a faim la bougresse. Mais courage, vous êtes des super-héros.
Merci Marina Rollman. Merci Albert Algou, merci Daniel Morin, merci Tanguy Pastureau, merci Leïla. Et comme dirait Leïla, bon, on vous demande de nous écouter demain avec Olivier Marchal, qui avait d'ailleurs comme assistant réa ou deuxième équipe réalisation de Frédéric Tellier sur 36 Quai des Orfèvres.
Tout à fait.
Donc comme ça, on a l'enchaînement d'une émission à l'autre.
Ça s'est très mal passé.
Et surtout, merci à Anaïs de Moussier et à Pierre Ninet. Et bravo, vous êtes vraiment formidables.
Merci beaucoup.
Vous en blanc des yeux, Sauver ou Périr, c'est mercredi prochain. Les carnets de campagne, c'est maintenant avec Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Yes, bonjour Nagui, bonjour les amis.
Salut.
Bonjour. Et le film sort une bonne date, le 28 novembre, c'est quelques jours avant le 4 décembre, la Sainte-Barbe.
Oui, ah, oui, tout à fait. Bah,
les pompiers, le patron,
patron des pompiers, totalement. Totalement, oui, ils vont faire, la fête comme des dingues.
Tout est étudié, c'est du marketing, tout est étudié. Bonne journée.
Salut les amis.